Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous ai souvent expliqué qu'en matière de meurtre, en général, il y a deux moteurs, l'argent et l'amour. Et dans l'amour, il y a un petit moteur qui est souvent la jalousie. Voici l'histoire d'une femme jalouse. L'enquête sur le meurtre en 2012 à Bobigny de Dafina Ponovic. Passionnante enquête que nous allons débriefer tout à l'heure avec Frédéric Bernardeau, qui a été l'avocat général au procès en appel. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 27 novembre 2012, à 11h30, les pompiers de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, reçoivent l'appel d'un homme paniqué.
J'ai retrouvé ma femme. Elle s'est étouffée. Je sais pas ce qu'elle a.
Est-ce qu'elle peut vous parler, monsieur?
Non. Elle est totalement inconsciente.
D'accord, monsieur. Quel est votre nom?
Patrice Dupuis. D-U-P-U-I-S.
Vous êtes à quelle adresse, monsieur?
À rue de Normandie, à Bobigny. C'est une cité HLM.
Un véhicule de secours se met immédiatement en route. Et pendant ce temps-là, au téléphone, l'opératrice explique au monsieur comment pratiquer un massage cardiaque. Et là?
Elle a un lacet autour du cou, ma femme. C'est le cordon de mon maillot de bain, je comprends pas.
Et deux minutes plus tard,
elle a aussi une ceinture autour du cou, c'est ma ceinture.
Entendu, monsieur. Est-ce que vous pouvez desserrer les deux liens le plus délicatement possible? Allez-y.
J'y arrive pas, c'est impossible. Le lacet est trop serré.
Les pompiers arrivent sur place 10 minutes plus tard. Ils prennent le relais du monsieur pour tenter de ranimer la dame. Bon, j'arrête. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Elle est décédée. Elle s'appelait Dafina Ponovic. Elle avait 39 ans. Et lui s'appelle Patrice Dupuis. Ils se connaissaient depuis 6 mois à peine. Juste après, on appelle la police, bien sûr, à cause des cordons autour du cou. Et aussi des touffes de cheveux arrachées qui se trouvent partout autour du corps. Ça ressemble à un crime. Et donc c'est la brigade criminelle de Paris, le fameux 36 quai des Orfèvres, qui débarque. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Mais les touffes de cheveux, là, bah ça fait penser à des femmes qui se crêpent le chignon, non? Ouais, je sais. C'est un peu macho comme remarque. Mais allez savoir s'il n'a pas raison, parce que un flic du 36, ça a de l'expérience. Et en général, ça a beaucoup de flair. Les équipes de la police scientifique passent à l'action. Bon, on cherche des poils, hein, ou des cheveux. Bref, tout ce qui pourrait nous donner un ADN. Allez, action! Mais du côté des poils, ça ne donne rien. Le médecin légiste débarque pour les premières constatations. Bien, nous sommes en présence du corps d'une femme dont on nous dit qu'elle a 39 ans, point. Elle présente des ecchymoses sur l'ensemble du corps, virgule, depuis le bas des chevilles jusqu'au cuir chevelu, point. A priori, les causes de la mort résultent d'un étranglement brutal, point. Nous constatons que le larynx de la victime a été écrasé, point. Et ensuite, les policiers se tournent vers le compagnon, Patrice. Patrice Dupuis, qui est là, assis dans un coin totalement effondré. Monsieur, pardon de vous importuner, je sais que c'est pas facile pour vous. Selon vous, est-ce qu'il manque des objets dans l'appartement? Des objets qui auraient disparu et qui pouvaient appartenir à madame? Il balaye la pièce du regard. Il réfléchit un petit moment. Bah oui, oui. Il manque son sac à main. Et puis son ordinateur portable aussi, et son téléphone. Dit comme ça ressemble donc à un cambriolage qui a mal tourné. Mais aucun tiroir n'a été ouvert. Et le couple était sur le point de déménager, la pièce est remplie de cartons, aucun n'a été éventré. Il n'y a pas non plus de traces d'effraction. Alors les flics se disent, ça ne ressemble pas à un cambriolage qui a mal tourné, mais plutôt à un meurtre déguisé en cambriolage. Mais les experts de la police scientifique n'en ont pas terminé. Dis, regarde ça. Sur le bas de la porte, là. Et puis sur la plainte. Ça m'a bien l'air d'être du sang. De minuscules gouttelettes de sang coagulées. Et du sang, ils en trouvent aussi dans la chambre et encore dans la salle de bain, dans le siphon de la baignoire et celui du lavabo. Du sang que manifestement on a voulu nettoyer, mais qui n'est pas complètement parti. Arrêtons-nous deux secondes pour faire le point. Je vous connais, hein. Je sais ce qui se gamberge dans votre petite tête de flic amateur biberonné au cluedo. Le compagnon, hein. Il a les clés de l'appartement, c'est la ficelle de son maillot de bain qui a servi à étrangler la miss. Et quand il appelle les pompiers, il semble découvrir la présence d'une ceinture autour du cou de sa femme au moment de lui faire un massage cardiaque. Sauf que voyez-vous, pas plus qu'on ne devient cuisinier en regardant Cyril Lignac, on ne devient pas policier en jouant au cluedo. Cela dit, le compagnon Patrice est tout de même convoqué au 36 quai des Orfèvres. Bien, monsieur, est-ce que vous pourriez nous donner votre emploi du temps pour la journée d'hier, 27 novembre ? Moi, je me suis levé tôt. Et je suis parti de l'appartement à 8h moins le quart, je dirais, pour déposer l'un des fils de Daphina à l'école. Et puis, ensuite, je suis allé à mon travail. Vous faites quoi comme métier, monsieur ? Je travaille aux pompes funèbres. Et après, monsieur ? Après, je suis rentré à la maison à 11h30. C'est là que je l'ai trouvé, inanimé sur le sol. Quelle relation est-ce que vous aviez avec Daphina Ponovic ? C'était super. J'ai jamais autant aimé une femme. En plus, je l'ai rencontrée à un moment où j'étais super mal. Ça a été un rayon de soleil dans ma vie. On vivait ensemble depuis 6 mois, c'était formidable. On allait déménager pour s'installer en Normandie. On allait se marier. On parlait même d'avoir un enfant.
Elle faisait quoi comme métier ?
Elle était caissière dans un supermarché.
Et le déménagement, quand est-ce qu'il devait avoir lieu ?
Dans 4 jours. Dans 4 jours, le 1er décembre.
Et vous parlez de mariage, la date était fixée ?
Ben c'était dans 10 jours. C'était le 8 décembre.
Votre opinion d'amateur de Cluedo après ce court interrogatoire ? Il a l'air sincère, n'est-ce pas ? Il a l'air sincère. Cela dit, les flics de la crime vérifient, bien sûr. Son patron aux pompes funèbres confirme qu'il est bien venu travailler aux horaires qu'il a donnés. Et le bornage de son téléphone portable colle point par point avec son récit. Son départ à 8h moins le quart, son retour chez lui à 11h30. Pardon de décevoir vos intuitions de policier d'opérette, mais ça n'est pas lui. Ça n'est pas lui le tueur. Désolé.
Ensuite, les policiers de la crime font ce qu'on appelle le voisinage. Ça existe depuis le commissaire Maigret. C'est-à-dire qu'ils font le tour des voisins. À base de « Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier ?»«
Ah ben oui. Mon mari vous le confirmera. Vers 8h moins 20, on a commencé à entendre des cris et des pleurs dans l'immeuble. Et ça a duré longtemps, au moins jusqu'à 9h. »
Bonjour madame, brigade criminelle. Nous enquêtons sur le meurtre de madame Ponovic. Dites-moi, est-ce que vous auriez noté quelque chose d'inhabituel le matin du meurtre ?
Ah, le matin même, non. Mais il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire. Il y a quelque temps, il y a 3 femmes, elles ont sonné chez moi, sans se présenter. Et elles m'ont demandé des informations sur la Daphina. Et elles m'ont posé aussi des questions sur sa probité et tout ça.
Voyez ce que je veux dire, comment elle se comportait avec les hommes, si elle avait des amants. Bref, beaucoup de questions très, très personnelles, ça m'a intrigué.
Ça, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que c'est corroboré par un autre témoignage, celui d'une de ses collègues caissières au supermarché.
Moi, ouais, il y a un truc qui m'a intrigué. Ça s'est passé juste après la mort de Daphina. Il y a deux femmes. Elles sont venues me poser des questions sur elle. Elles me demandaient si je savais comment elle était morte. Moi, je ne les connaissais pas, ces femmes. C'était très gênant.
Et puis, quelques jours après la mort de Daphina, son compagnon Patrice se présente de lui-même chez les flics du 36.
J'ai pas mal cogité depuis la mort de Daphina. Il y a des trucs que j'ai pas pensé à vous dire la dernière fois. D'abord, dans les semaines qui ont précédé, on nous a rayé les noms d'une pointe sur notre boîte aux lettres. Et puis autre chose, plusieurs fois, Daphina, elle a eu les pneus de sa voiture crevés ou dégonflés. Et puis il y a encore autre chose, mais ça c'était sur ma voiture. Un jour, j'ai trouvé des boulettes de papier humide, mouillé quoi, si vous voulez, dans la voiture.
Et détail qui a son importance, la voiture de Patrice n'était pas fracturée.
Et du coup, je me suis dit que c'était pas des Caïras de Bobigny qui avaient fait ça, quoi. Parce que des Caïras, on n'en manque pas ici à Bobigny. Mais ils n'avaient pas la clé. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Fatia. Ça pouvait être qu'elle. Qui est Fatia, monsieur? Fatia, c'est mon ex. On a vécu 15 ans ensemble. On a un gamin. Et surtout, elle a les doubles des clés de ma voiture. Vous pensez qu'elle est capable d'avoir tué votre nouvelle compagne? Oui. Vous savez, elle est d'une jalousie maladive, quoi. Elle est capable du pire, je pense. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes séparés avec cette Fatia? Ça fait 3 mois. 3 mois à peine. Fatia comment? Fatia Mokdad. M-O-K-D-A-D.
Et Patrice se met à raconter. Avec Fatia, ils se sont connus en 1997 dans un bar PMU où elle était serveuse et lui client.
Moi, j'étais super jeune, j'avais juste 26 ans. Et elle était beaucoup plus âgée, elle en avait 43. Et elle a comme qui dirait jeté son dévolu sur moi, quoi. Elle m'a pas laissé vraiment le choix. J'aurais pas dû la laisser faire parce que, au fil des ans, elle m'a coupé de mes amis, elle m'a coupé aussi de ma famille. Et moi, à cause d'elle, je suis tombé dans la dépression, dans la clope, dans l'alcool. Avant elle, j'avais jamais bu. Jamais. Pas une goutte. Et puis elle était violente. C'est-à-dire, monsieur, explicité. Elle me frappait. À plusieurs reprises, j'ai dû appeler la police. Vous trouverez des traces, je pense, de ça. Et puis quand j'ai rencontré Daphina, quand elle l'a appris, elle est carrément venue la voir, elle l'a insultée, elle lui a même collé une gifle. Et elle lui a dit, t'auras jamais un cheveu de Patrice, il est à moi, tu l'auras jamais, sinon. Et elle n'a pas fini sa phrase.
Sinon quoi? Sinon je la tue? Patrice, en tout cas, n'y va pas par 4 chemins.
Ah, moi, je suis sûr que c'est elle. Je suis sûr que c'est elle qui a tué Daphina, j'en suis certain.
Les policiers n'avaient pas de piste. Là, ils en ont une. Alors, ils commencent à se rencarder sur cette Fatia Mokdad. Et ils tombent sur sa meilleure amie.
Je reconnais qu'avec Fatia, on a espionné la nouvelle femme de Patrice, la Daphina, là. Et un jour, c'est moi qui ai appris qu'ils allaient se marier. Alors d'abord, je l'ai dit à sa fille, elle est pharmacienne. Et je lui ai dit, tu dis à ta mère que Patrice et l'autre, là, ils vont se marier.
Et cette femme, la meilleure amie de Fatia, révèle au policier que quelques jours plus tard, Fatia l'a appelée. Et elles sont allées toutes les trois chez Daphina. Fatia, sa fille et la meilleure copine. Elles ont sonné. Personne. C'était donc elles, les trois femmes venues se renseigner auprès de la voisine. Les policiers de la CRIM
pourrait arrêter cette Fatia là, maintenant, tout de suite. Mais avant de l'arrêter, ils veulent avoir des biscuits. Alors, ils étudient le parcours de son portable.
Bon, ça se confirme. La greluche a borné plusieurs fois près de chez Dafina dans les semaines qui précèdent sa mort. Pas mal, non?
Et celui de sa fille pharmacienne, aussi, plusieurs fois. Et surtout, le matin du meurtre, elles y étaient toutes les deux, à l'heure du crime.
À ce moment-là de cette histoire, survient un événement très douloureux, bouleversant même. Depuis la mort de Dafina, Patrice, le compagnon, se noie dans le chagrin. Il pleure du matin au soir, il ne mange plus, il se nourrit d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Et quelques jours avant Noël, un mois et demi après la mort de sa chérie, il se suicide. Il a dit à son frère qu'il voulait rejoindre Dafina. Et il l'a fait. Celui ou celle qui a tué Dafina aura aussi la mort de Patrice sur la conscience. Ouais.
Patrice est enterré au cimetière de la Courneuve, dans le même caveau que Dafina. Et le même jour, Fatia Mogdad et sa fille sont interpellées et placées en garde à vue. Et interrogées séparément, bien sûr. Dans le bureau où les flics cuisinent Fatia Mogdad, voilà ce que ça donne.
Dafina Ponovic, vous dites? Oh, je la connais pas, moi, cette femme. C'est qui? S'il lui est arrivé quelque chose, j'y suis pour rien, moi.
Un aplomb incroyable. Et pourtant, les flics de la criminelle savent qu'elle ment. Mais elle n'en démord pas. Elle est blanche comme neige. Dans ce cas-là, la meilleure technique consiste à trouver une voie de contournement. Qu'a-t-elle à dire sur sa séparation avec Patrice? Sur sa jalousie?
Bien. Et si on parlait, madame, de votre séparation avec Patrice Dupuis? Comment est-ce que vous avez accueilli cette séparation? Oh ben franchement, Patrice, c'était un vrai soulagement qu'il s'en aille. Ça ne vous a rien fait? Oh ben rien du tout. Il était violent, j'en pouvais plus, quoi. Et puis il buvait, hein. Il buvait comme un trou, à tous les repas. Et c'est quand il était sous qu'il s'en prenait à moi. Bon, je sais que c'est pas bien de le dire d'un mort, mais franchement, quand on s'est séparés, j'ai eu aucun regret. Bon débarras, franchement, bon débarras. Madame Mogdad, votre version ne correspond pas, sachez-le, aux nombreux témoignages que nous avons recueillis dans votre entourage. Ils disent tous que vous avez cherché par tous les moyens à reconquérir votre ex-conjoint. Mais c'est faux! Moi, je savais même pas qu'il avait refait sa vie. Je savais même pas qu'il avait une autre femme.
Il est temps de déposer quelques biscuits sur la table.
Vous venez de nous dire, madame, que vous ne saviez pas que votre compagnon avait refait sa vie avec Dafina Ponovic. Et pourtant, nous avons ici l'analyse de votre téléphone portable qui démontre que vous êtes allé plusieurs fois, vous et votre fille, aux abords de son domicile. Mieux que ça, madame, vous y étiez le matin du crime. Regardez, regardez, c'est écrit là, sur cette ligne. Regardez. Je comprends pas. Parce que moi, je peux vous dire, je suis jamais allé là-bas.
Ça s'appelle nier les évidences. Bon ben, il n'y a plus rien à tirer d'elle pour l'instant. Passons dans le bureau d'à côté où est interrogée sa fille.
Moi, j'y suis pour rien dans la mort de cette femme, rien du tout. Madame, votre téléphone portable ainsi que celui de votre mère ont borné tous les deux le matin du meurtre aux abords de la rue de Normandie à Bobigny, qui était le domicile de madame Ponovic. Comment est-ce que vous expliquez ça? Mais ça, je vais vous l'expliquer. Ce matin-là, j'ai déposé ma mère à cet endroit. Mais moi, je suis reparti juste après.
Il était quelle heure?
Ben, dans les 9 heures. Mais je vous jure que je sais rien sur ce qui s'est passé ensuite. Rien.
Elle ment. Ça n'était pas 9 heures, car une voisine, souvenez-vous, a dit avoir entendu des cris et des pleurs à 7h30. Elle ment, mais elle vient tout de même, du bout des lèvres, de balancer sa maman. C'est fou ce que les enfants sont ingrats. En tout cas, ça suffit au juge d'instruction pour les mettre en examen toutes les deux et pour les envoyer en prison toutes les deux. En se disant, ça va les attendrir, comme on dit. Ça va leur délier la langue. Tu parles ? Pendant 6 mois, interrogée à plusieurs reprises par le juge, Fatia se mure dans le déni. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. En revanche, comme vous avez pu l'observer, sa fille est plus ouverte à la discussion. Et au bout de 6 mois, elle écrit d'elle-même au juge. « Monsieur le juge, je souhaiterais être réentendu par vous, car j'ai des révélations importantes à vous faire. » Bon, d'accord. Le juge l'a fait venir dans son bureau.
« Vous pouvez lui retirer ses menottes. Asseyez-vous, madame. » « Alors, il semble que vous ayez des choses à me dire. Je vous écoute. Mais le matin du meurtre, ma mère, elle avait rendez-vous avec un homme. C'est ça que je voulais vous dire. »«
Et vous avez un nom ? Le nom de cet homme ? » ?»«
Oui, mais je peux pas vous le dire. J'ai peur des représailles. Il nous a menacés plusieurs fois, ma mère et moi. »
C'est donc pour ça qu'elle a dérangé le juge, pour tenter de détourner l'attention sur un homme dont elle ne peut pas donner le nom. Bon, cela dit, par acquis de conscience, les flics du 36 vérifient sur la facture de téléphone de Fatia Mokhdad si par hasard, le matin du meurtre, elle a téléphoné à un homme.
Écoutez ça, la gamine n'a pas menti. La mère a bien téléphoné à un homme à 7h55 du matin précisément, alors qu'elle était déjà sur place, et le type, j'ai son nom, s'appelle Pascal Herman.
Ainsi donc, la fifi n'a pas menti. Le juge fait revenir Fatia Mokhdad dans son bureau.
Alors madame, nous avons établi que le matin du meurtre, vous avez appelé un certain Pascal Herman depuis les abords du lieu du crime. Qui est ce monsieur ? Pascal ? Pascal, c'est mon ami depuis au moins 20 ans. C'est vrai que je l'ai appelé et qu'il est venu me rejoindre. Il voulait récupérer de l'argent que Patrice lui devait rapport à du cannabis qu'il lui avait vendu. Madame, je vous repose la question. Savez-vous qui a tué Dafina Ponovic ? Je vous écoute. Oui, je sais. C'est lui. C'est Pascal Herman. Et comment le savez-vous ? Il me l'a dit. J'étais avec lui le matin du meurtre. Je l'ai vu sur place. Et il m'a dit quand je l'ai recroisé plus tard dans la matinée. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas parlé avant, madame ? Il m'a fait des menaces de mort. Il m'a dit, si je parlais, j'aurais des problèmes. Vous savez, Pascal, c'est une racaille de cité. J'ai eu peur, quoi.
Sauf qu'on vérifie. Et Pascal Herman n'a rien d'une racaille de cité, comme elle dit. C'est un bon père de famille, absolument sans histoire. Aurait-elle encore menti ? Cela dit, Pascal Herman est tout de même interrogé. Il est même placé en garde à vue. Et son interrogatoire est un tournant dans cette affaire.
Oui, j'étais sur place. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Fatia, il m'a dit, Patrice, c'est un salaud. Il m'a abandonné pour une plus jeune. Et il a abandonné notre fils, il ne le voit plus. Elle m'a dit, ils vont se marier. Elle m'a dit, faut que tu m'aides à empêcher ce mariage. Et donc, elle m'a fait venir devant chez eux. Et elle m'a dit, tu vas te faire passer pour un livreur de la redoute. Et tu vas sonner chez eux. Et elle avait tout préparé, hein, le colis, le faux bon de livraison, tout ça. Et elle m'a dit, quand tu seras dedans, tu te débrouilles pour récupérer les papiers de leur mariage, pour pas que le mariage ait lieu, quoi.
Et là, il raconte qu'il sonne, que Dafina Ponovic ouvre, et qu'à ce moment-là, Fatia Mokhdad se rue sur elle.
Elle lui a mis un chiffon sur son visage. Et à l'odeur, moi, j'ai pensé que c'était de l'éther. Et après, moi, je me suis occupé de ce qu'elle m'avait demandé, quoi, c'est-à-dire les papiers. Et j'ai juste vu que Fatia l'a roué de coups. Mais j'ai pas vu quand elle l'a étranglé. J'ai pas vu.
de l'éther. Le juge ordonne de nouvelles analyses du sang de Daphina et de ses urines. Tiens, il y a de l'éther dans son sang et il y en a dans ses urines. Donc, Patrice Herman n'a peut-être pas menti. Peut-être. Et dans le doute, le juge les renvoie tous les deux devant les assises. Au juré de les départager et au passage, il décide de ne pas impliquer la fille de Fatia. Le procès s'ouvre à Bobigny en octobre 2015. Fatia Mogdad n'a pas bougé d'un iota.
Je vous dis que j'y suis pour rien, moi, dans la mort de cette fille. C'est lui, c'est Pascal, c'est pas moi.
Mais elle livre tout de même une nouvelle version des faits.
Moi, ce matin-là, j'étais venu pour parler à cette femme. Je voulais avoir avec elle une discussion, les yeux dans les yeux. Je voulais lui dire que mon fils avait besoin de voir son père et qu'il fallait qu'elle le convainque de ça. Et quand elle a ouvert la porte, et ben Pascal qui était avec moi, il a paniqué, quoi. Il s'est jeté sur elle, il s'est mis à l'étrangler. Et moi, à ce moment-là, je suis parti.
Pascal Herman, lui, s'en tient à la version qu'il a déjà livrée en garde à vue. Il répète que c'est Fatia qui s'est ruée sur Daphina, mais qu'il n'a pas vu qu'elle l'étranglait.
Et monsieur, vous n'avez pas à chercher à vous interposer ?
Ben non.
Puis vient le témoignage du policier qui a dirigé l'enquête.
Personnellement, j'ai la conviction que c'est un crime de femme depuis le début, au vu de mon expérience. Et aussi au vu du fait qu'on ait retrouvé des touffes de cheveux arrachées. C'est très caractéristique des crimes de femmes.
Et l'idée est reprise par l'avocat général dans sa plaidoirie.
Vous noterez que la victime a été étranglée avec le cordon du maillot de bain de Patrice Dupuis et avec une ceinture de Patrice Dupuis. De quoi s'agit-il si ça n'est pas d'un signe de jalousie? De jalousie maladive.
Et cette conviction l'emporte auprès des jurés. Fatia Mogdad est condamnée à 20 années de réclusion criminelle pour assassinat et Pascal Herman à 12 ans pour complicité. Elle fait appel et pas lui, et en appel, Fatia Mogdad est condamnée à nouveau à 20 années de prison. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec l'avocat général qui a porté l'accusation au procès en appel, Frédéric Bernardo. Alors je n'ai pas, par manque de temps, Monsieur Bernardo, raconté le procès en appel. Est-ce que vous arrivez aux mêmes conclusions que votre confrère de première instance, que c'est forcément elle qui étrangle?
Alors, la question est simple et ma réponse sera également simple. Oui, ma conviction est faite. Vous l'avez dit, hein, il s'agit d'une femme jalouse, maladive. On reviendra, si vous voulez, tout à l'heure sur la personnalité de cette femme, telle qu'elle a pu être exposée au cours de l'audience. Cette jalousie, en tout cas, elle est là. Et contrairement à d'autres dossiers où on a ce genre de crime, la jalousie n'a pas donné lieu à un drame passionnel, mais au contraire à un crime d'honneur. Et c'est ça qui fait que ce dossier est tout à fait particulier à mon goût.
Un crime d'honneur?
Oui.
Vous basez ce jugement sur quoi?
En fait, c'est pas le. J'ai eu plusieurs dossiers de cette nature, mais vous voyez, le crime passionnel, c'est celui où l'on élimine l'objet de son amour pour éviter de le voir partir. Donc ouais. C'est un petit peu ça, c'est que je ne veux pas que tu me quittes, donc je te tue pour te garder avec moi.
Donc elle aurait là, plutôt, dans ce cadre-là, tué Patrice Dupuis.
Exactement. Là, c'est beaucoup plus pervers que cela, c'est qu'on va aller tuer cette pauvre femme, dont la faute aura été au final simplement d'avoir nourri un projet de mariage avec un homme qui venait juste de se séparer de sa précédente compagne. Et donc cette femme était absolument innocente et c'est là que je dis que ça ne ressemble absolument pas à un crime passionnel comme on peut les entendre, mais au contraire à un crime d'honneur.
Alors, pourquoi vous ne demandez pas plus s'agissant d'un assassinat? Un assassinat, on encourt perpétuité. On est toujours surpris quand on encourt perpétuité qu'on se retrouve avec une réquisition de 20 années.
Oui, alors moi mes réquisitions n'ont pas porté sur 20 ans, mais au contraire sur 25 ans. D'abord, pourquoi 25 ans et pourquoi pas 30, etc.
Ouais.
Il se trouve que la peine de perpétuité, c'est un maximum et que la réponse pénale, elle doit correspondre à un objectif d'individualisation de la peine. C'est à cela que sert la justice et il faut une peine adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Et donc, cette peine de perpétuité, elle s'applique qu'il y ait une victime, deux victimes ou trois victimes. Donc,
oui.
C'est là qu'il faut quand même adapter la peine à la réalité d'un dossier. Et en ce qui me concerne, moi, j'avais requis une peine plus lourde que celle prononcée en première instance, à savoir une peine de 25 ans de réclusion criminelle, parce que les faits sont quand même tout à fait particuliers, parce que on a une femme, comme je vous l'ai dit, qui était atteinte dans son honneur, qui était blessée par le départ de son compagnon, Patrice Dupuis. C'est une femme qui a 55 ans à ce moment-là. Il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Elle voit partir un homme.
Pour une femme plus jeune.
Pour une femme plus jeune, de son âge à lui d'ailleurs. Avec cet homme, elle a eu un enfant, âgé de 12 ans au moment des faits, et elle le voit partir. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a eu des tentatives de départ de la part de Patrice Dupuis. Ça s'était déjà présenté une dernière fois, mais la relation avec la femme, à l'époque, n'avait pas dépassé 3 semaines parce que la femme avait, là encore, fait l'objet de menaces de la part de Mme Bogdad, puisqu'elle lui avait dit « Tu ne toucheras pas un seul cheveu de mon homme, cet homme est à moi, et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait ». Donc ça veut dire qu'elle était persuadée jusque-là de l'emprise en fait qu'elle pouvait avoir sur Patrice Dupuis. Mais là, avec Dafina Ponovic, c'est tout à fait différent, parce qu'on a retrouvé au cours de la perquisition des documents qui laissaient clairement entendre que le départ de Patrice Dupuis était définitif.
Ben oui, puisqu'ils allaient se marier.
Ils allaient se marier, mais allons au-delà.
Mmh.
Oui, allons au-delà, parce que ça, Fatia Mogdad l'a entendu par le oui-dire, mais c'est allé même au-delà, c'est-à-dire que ça a été officialisé, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des fiches de paye datant du mois de juillet. Rappelons quand même qu'il s'est mis en ménage avec Dafina Ponovic au mois de juin. Dès le mois de juillet, son bulletin de paye n'était plus adressé à son domicile, c'est-à-dire celui qu'il occupait avec Mme Mogdad, mais au nouveau domicile, c'est-à-dire le logement de Mme Ponovic. Pareil pour l'abonnement téléphonique, qu'il avait complètement résilié. Pareil pour l'assurance automobile. Donc, c'était là les signes qu'il n'allait pas revenir. Et puis, juste pour une dernière chose sur ce terrain du crime d'honneur, c'est que en voyant Patrice Dupuis partir, elle perdait son statut de femme qui avait un homme dans sa vie. Elle
jeune.
Perdait le père de son enfant, qui était plus jeune qu'elle, bien sûr, et qui, en plus, était propriétaire en partie du pavillon que le couple habitait.
Donc elle perdait le pavillon.
Elle perdait tout. Elle perdait tout. D'ailleurs, elle l'a dit à un des témoins qui a été entendu dans le dossier. Elle a dit qu'elle le vivait très très mal et qu'elle avait peur de se retrouver à la rue.
Alors, ce qui est étonnant dans ce procès en appel, pardon, mais c'est que Pascal Herman n'y est pas. Enfin, il y est en tant que témoin, mais pas en tant qu'accusé. On ne comprend pas pourquoi votre confrère de première instance, avocat général, n'a pas fait appel de la condamnation de Pascal Herman de manière à ce qu'ils soient rejugés tous les deux.
Alors oui, il n'y a pas eu d'appel. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas eu d'appel de Pascal Herman.
Lui-même, bah oui, il prend 12 ans, lui, il est content.
Mais en tout cas, il a pris une peine moindre, il n'a pas fait appel. C'est-à-dire que lui, d'ailleurs, vous l'avez dit, à la fin de votre récit, vous l'avez bien dit, il reconnaît sa participation,
oui.
Et il dit ce qu'il a fait, et voilà, sans particulièrement, en distribuant les rôles. Pourquoi il n'y a pas eu d'appel
Franchement, la logique, c'est de les avoir tous les deux. Quand on commet un crime ensemble, on les juge une fois ensemble et deux fois ensemble.
Oui, il peut y avoir différentes options de ce point de vue-là. En fait, on peut les renvoyer tous les deux en appel, on peut en envoyer qu'un seul. Est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt? Parce que Herman reconnaissait ce qu'il avait fait. Je trouve que reconnaître les faits, c'est déjà beaucoup dans la voie de l'amendement. Parce qu'il faut savoir qu'une peine, c'est aussi là. C'est pour rappeler l'interdit et puis permettre à l'intéressé également de s'amender. Il n'a pas fait appel. Il a reconnu les faits. Il a pris une peine lourde, quand même, si on compare
ans,
avec les quand même. C'était pas la peine d'en rajouter. En tout cas, ça ne nous a pas empêché de l'avoir en appel, parce qu'il
vient
est venu
témoigner.
Non pas comme co-accusé, mais comme témoin.
Comme témoin.
Voilà.
Alors, il y a un truc qui m'étonne énormément dans ce dossier, c'est l'espèce d'intuition des policiers de la crime, dès le début, et qu'ils répètent d'ailleurs au procès de première instance, je ne sais pas s'ils l'ont redit au procès en appel, que ça ressemble à un crime de femme à cause des touffes de cheveux arrachées qui font penser à un crépage de chignon. C'est pas rationnel, c'est juste du flair, quoi.
Oui. Oui, c'est ça, c'est le flair du policier, et de ce point de vue-là, on peut leur faire confiance à ces policiers, puisque, vous l'avez rappelé, c'est la brigade criminelle qui est intervenue, et ils sont absolument spécialistes de ce type de dossier. Et c'est un élément qui permet de définir des pistes. Bien sûr que c'est pas là-dessus que repose un renvoi devant une cour d'assises.
Je suis d'accord.
Mais en tout cas, voilà, ça fait partie du flair et ça permet d'orienter une enquête. Et puis d'ailleurs, le reste de l'enquête a bien prouvé que finalement ce flair était juste.
Hein, non, mais ce qui est intéressant, c'est que quelque part, c'est de la police à papa. C'est-à-dire que ça nous renvoie au commissaire Maigret, alors même que la police d'aujourd'hui est très technique, très scientifique, le bornage des téléphones portables, l'ADN, etc. Et là, on a le retour du flic à papa. C'est bien, enfin, c'est intéressant.
Oui, oui, mais je suis pas tout à fait de votre avis, parce que la police à papa, en fait, il s'agit d'une police humaine.
Oui.
La police scientifique, elle n'est pas humaine.
Oui.
Et un procès, finalement, c'est l'ensemble des deux. La police, elle conduit ses investigations et elle récupère tous les éléments factuels. Parce que s'il y a une chose importante dans un dossier, c'est bien justement le fait. Le fait est têtu, hein, vous connaissez l'expression. Et par contre, le fait ne permet pas de raconter une histoire en tant que telle. Et c'est là que c'est intéressant, parce que les déclarations, elles vont être confrontées aux éléments factuels qui ont été réunis. Vous avez parlé, par exemple, des bornages et de l'étude de la téléphonie. Ça, c'est quelque chose de tout à fait factuel.
Oui.
Lorsque le téléphone de Fatia Mogdad borne sur les lieux, qu'on a la trace d'un appel à Pascal Herman à 7h55, ça, c'est quelque chose d'incontestable. Et lorsque, à la première audition, elle va dire « Non, je n'étais pas sur les lieux, j'étais chez moi, et d'ailleurs, la preuve, j'ai moi-même conduit mon fils au collège à 9h », c'est pas vrai. On a cet élément de téléphonie. On a par ailleurs croisé, on est allé vérifier. Le gamin, il commençait pas à 9h, mais il commençait à 8h. Et c'est cela. Une bonne enquête, d'ailleurs comme un bon procès, c'est celui qui mêle les éléments de fait et les éléments humains. Parce qu'on est toujours sur des drames humains, sur des tranches de vie. Et la raison que l'on doit apporter, la rationalité des faits, eh bien, elle résulte de la confrontation de tout cela. Et on reste toujours sur des histoires profondément humaines. On est là pour prononcer les peines, faire des déclarations de culpabilité, prononcer les peines. Mais ça reste un exercice fondamentalement humain.
À votre avis, Monsieur Bernardo, est-ce que le suicide de Patrice Dupuis pèse sur le verdict? Est-ce que Fatia Mogdad, au fond, paye aussi le suicide de son ex?
Alors là, je
parce que c'est touchant, pas... ce suicide.
Oui, ah ben c'est absolument touchant. Bien sûr, c'est absolument tragique. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, hein, il s'est suicidé à peu près un mois après qu'il a découvert celle avec laquelle il avait décidé de se marier. C'est lui qui a même essayé de la réanimer. D'ailleurs, vous avez très très bien rapporté la conversation qu'il a pu avoir avec les pompiers. On l'a entendu en cour d'assises et c'était absolument troublant. Vraiment, c'était la preuve, la preuve évidente de la sincérité de son témoignage. En tout cas, moi, pour ce qui est de la cause d'appel, j'ai envie de dire que ça n'a pas particulièrement pesé parce que Fatia Mogdad s'en est quand même tiré avec 2 ans de moins. Hein,
oui.
Donc, voilà.
Pourquoi est-ce qu'elle n'avoue pas, selon vous, Fatia Mogdad, jamais jusqu'au bout, alors qu'elle nie les évidences et que toute la police technique la condamne?
Mais c'est un crime d'honneur, et tout cela va ensemble. Le crime d'honneur, c'est lié à une personnalité un peu rigide. D'ailleurs, la personnalité de cette femme, c'est révélé. Enfin, ça n'engage que moi, parce que j'étais à l'audience sur plusieurs jours. Après, on a tous une perception qui peut changer. Mais moi, à l'audience, ce qui m'a frappé, c'est quand même la force du caractère, hein, de Fatia Mogdad. En fait, elle a une espèce de charisme, elle est énergique, elle est combative, elle nous regarde droit dans les yeux, elle regardait les photos de la scène de crime, comment dire, la tête haute, alors qu'on voit d'autres accusés qui sont au contraire la tête tournée vers le sol. Voilà.
Ouais.
Mais là, c'est pas le cas. Et elle s'est enfermée dans ce mensonge, et puis en même temps, elle est dans son rôle. Voilà, c'est une femme très autoritaire, très manipulatrice. Et d'ailleurs, l'audience a permis de montrer d'ailleurs ces différences de personnalité entre elle et Pascal Herman. Pascal Herman qui s'est montré très, très influençable. On le voyait dans sa façon de déposer. Très influençable. Et d'ailleurs, sur le côté très, très charismatique de Fatia Mogdad, il y a eu un élément qui est apparu dans le dossier, c'est qu'elle pouvait même endosser un rôle de chef de clan avec parfois un peu des méthodes mafieuses. Je vous dis cela, bien sûr, maintenant avec les mots qui me sont propres, mais je me souviens qu'on avait relevé une situation où elle avait eu recours à des amis qu'elle avait recrutés un peu comme des hommes de main pour libérer un appartement de locataires qui ne voulaient pas laisser les lieux.
C'est Madame Tone, voilà. Quoi.
Oui, c'est cela. Elle a des connaissances, elle sait en faire usage, elle a cette force de persuasion. Rendez-vous compte quand même qu'elle a été capable de sceller un pacte diabolique, hein, entre sa fille et Pascal Herman. Faut quand même avoir une certaine autorité pour être sûr que la vérité ne sortira pas, ou en tout cas que l'un des acteurs de ce pacte ne fasse pas preuve de fragilité. Et c'est tout cela. Et on l'a vu également retourner sur les lieux du crime. Vous allez me dire c'est habituel, hein, un assassin retourne toujours sur les lieux de son crime, hein, c'est bien connu. Mais elle l'a fait en tout cas pour essayer d'apporter ou en tout cas d'influencer la décision qui pourra intervenir.
Je vous remercie infiniment, monsieur Bernardo, d'avoir réveillé ces souvenirs qui remontent à il y a presque 4 ans déjà.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.